les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans les années 90, Emmanuel Carrère entreprit de raconter l'histoire tragique de Jean-Claude Roman, cet homme qui se fit passer pour médecin toute sa vie avant de tuer sa femme, ses deux enfants et ses parents lorsque son secret menaçait d'être révélé. Cette histoire, l'écrivain mit longtemps à trouver comment la raconter. C'est lorsqu'il comprit qu'il devait mettre en scène la gestation de ce qu'il avait d'abord pensé écrire comme une fiction qu'il put en faire un livre, et ce fut L'Adversaire, paru en 2000. Quelques années plus tard, c'est un chemin parallèle qu'il emprunta pour raconter, cette fois au cinéma, l'histoire de son lien à Kotelnitch, une petite ville située 800 km à l'est de Moscou. Il s'y était rendu d'abord en tant que journaliste, y était retourné une première fois pour tourner un documentaire, puis une seconde pour enterrer une jeune femme connue là-bas, morte entre-temps assassinée par un fou. Dans « Retour à Kotelnitch », son film sorti en 2004, il rendait compte de ses trois voyages pour raconter une histoire qui était aussi finalement la sienne, celle de sa famille et d'un secret longtemps tu. Chacun de nous a, à l'intérieur de soi, une fenêtre qui donne sur l'enfer. C'est ce que lui écrivit un jour un lecteur, d'une phrase qui sonne comme une clé de lecture de toute son œuvre. L'écrivain la citait à Laura Adler dans la deuxième émission d'une série de hors-champs qui lui était consacrée. Écoutons-le se faire l'exégète de ses livres et de ce film dans cette émission diffusée pour la première fois le 14 novembre 2011.
Hors-champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, seconde émission avec Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, vous êtes écrivain, ça tout le monde le sait, ou vous êtes cinéaste ?
Oh, principalement écrivain, non, j'ai été cinéaste occasionnel, disons.
L'écriture, le goût de l'écriture a commencé par celui de la lecture ?
Oui, comme... Oui, le goût de la lecture très, très précoce, j'ai été effectivement plutôt... c'est le genre de petits garçons frais, la lunette, qui a un peu peur de se faire taper dessus à la cour de récréation et qui lit beaucoup et qui était, je pense que j'étais un peu monstrueusement cultivé pour mon âge, disons.
Par goût naturel ou parce que des parents vous y ont incité ?
Je pense les deux. Alors là, je suis absolument incapable de faire la part de l'inné et de l'acquis là-dedans. Mais oui, non, c'est sûr, j'ai quand même grandi, j'ai eu la chance de grandir entouré de livres, de parents qui m'ont beaucoup poussé à lire, et bon, il n'y avait pas énormément besoin de me pousser non plus.
Dans plusieurs langues ?
Non, pas dans plusieurs langues, en français uniquement.
Ce n'est que beaucoup plus tard que vous allez découvrir la langue russe.
Découvrir, non, j'ai un peu parler le russe, en, disons ma mère qui est d'origine russe et qui parle le russe comme le français, qui l'a d'ailleurs même parlé avant le français, nous avait, à mes sœurs et moi, un peu parlé russe quand on était enfant, mais pas de façon systématique, et donc en fait je l'ai perdu par la suite, et j'ai essayé de me le réapproprier beaucoup plus tard, effectivement, depuis une dizaine d'années. Le résultat, c'est que je parle toujours assez mal russe, mais comme j'ai eu l'oreille formée au russe très tôt, mes interlocuteurs s'accordent à me trouver un excellent accent, mais c'est comme si, j'avais la musique sans avoir vraiment les paroles, quoi. Il m'a fallu du temps pour acquérir un peu de vocabulaire, de grammaire, tout ça, qui sont d'ailleurs pas très très bons. Mais l'accent trompe au début, ce qui fait que les gens croient d'abord que je, quand
que
je dis une phrase ou deux, ils croient que je parle très très bien russe. Ensuite, ils déchantent un peu.
En tout cas, ce que vous racontez dans votre film Retour à Koltenich, c'est ça, c'est comment une langue peut vous envelopper, vous habiter, vous transporter et vous faire devenir autre.
Oui, c'est... Je ne sais pas si ça vaudrait pour n'importe quelle langue. J'ai l'impression que la langue russe a quelque chose, vous disiez enveloppé, mais c'est vrai que la langue russe a quelque chose de particulièrement enveloppant. Qu'elle est, pour moi, c'est une langue que je ressens comme particulièrement maternelle, c'est effectivement. Il me semble même éprouver à parler, si mal que ce soit russe, une espèce de plaisir, alors vraiment sensuel, peut-être plus grand qu'en français. Le malheur, c'est que je me débrouille, j'espère bien en français, mais en russe, beaucoup moins.
Quand vous étiez jeune, Emmanuel Carrère, vous ne saviez pas très bien ce que vous alliez devenir. Vous êtes parti en tant que coopérant à l'autre bout du monde. Et puis, vous pensiez peut-être y rester, mais il y a toujours un moment où il faut revenir. Le retour ne s'est pas terriblement bien passé.
J'étais parti, quand j'avais donc vers 20 ans, comme coopérant en Indonésie. Comme d'ailleurs, finalement, je me rends compte qu'à cette époque-là, il y avait pas mal de gens de cette classe d'âge et aussi d'ailleurs de cette classe sociale qui faisait ça. Et j'avais l'impression que c'était presque un genre littéraire. À chaque rentrée, comme ça, il y avait un premier roman de coopérant. Vous voyez, d'un aimable jeune homme, souvent de milieu bourgeois, qui avait généralement vécu une enfance et une adolescence protégées, comme moi, et qui à un moment se retrouvait au bout du monde, au fond loin de ses bases, loin de sa famille, de ses amis, de ses habitudes, et à qui ça donnait une vraie claque, quoi. C'était ce qui pouvait nous tenir lieu d'aventure. Et pour moi, je sais que ça a été très précieux. Enfin, ça a été vraiment un... Ça a beaucoup compté, et c'est d'ailleurs au cours de ces deux ans que j'avais passé en Indonésie que je m'étais vraiment mis à écrire. Enfin, j'avais essayé de le faire auparavant, mais disons le premier roman que j'aspirais à écrire, et qui était d'ailleurs, comme beaucoup de premiers romans, était un fourre-tout un peu autobiographique, très très de ces livres où on essaye de mettre un peu tout comme ça. Je l'avais écrit là-bas.
Et au retour, vous pensiez être heureux avec votre petite amie? Et
ah oui, ça s'était barré. Pas bien passé. Ouais, c'était non, ce retour avait été très difficile. Je m'étais fait plaquer. J'avais écrit un premier roman dont personne ne voulait à ce moment-là. Avec ma petite amie, on avait essayé de monter pour devenir pour une espèce de commerce de maillots de bain qu'on avait commandé, je sais pas, quelque chose comme 5000 maillots de bain qu'on avait acheté à très bas prix dans l'idée de les revendre plus cher, et à partir de là, de mener une vie exotique et rigolote. Et je m'étais retrouvé comme ça avec ma malle de maillot de bain aussi, dont personne ne voulait. Ça a été une période plutôt difficile, oui.
Chez vous, Emmanuel Carrère, l'absurde, le comique, le grotesque, mais aussi les motifs et l'empathique s'entremêlent de manière tout à fait inextricable. Vous venez de parler de cet amour de la langue russe qui a baigné finalement votre enfance à votre insu, mais qui ensuite est revenu comme une sorte d'habitacle sensoriel, qui, je crois, vous obsède encore en ce moment même. Nous vous proposons d'écouter la voix de Édouard Limonov. C'est un entretien dans l'émission de Gérard-Julien Salvi, Photoportrait, 13 avril 1991.
Quand vous est venu le goût de choquer ou de scandaliser ? Ah, mais j'ai jamais... c'est pas un goût de scandaliser ou de choquer. C'est simplement des goûts de comprendre et de m'exprimer dans les façons adéquates. J'utilise ma littérature, j'utilise mon talent de journaliste aussi, pas pour choquer, mais pour exprimer mon opinion. Choquer, non, ça, c'est simplement peut-être d'un grand décollage entre mon regard sur le monde et regard d'un homme moyen sur le monde, regard banal qui est malheureusement devient plus en plus que regard des consensus, de regard des majorités. Ou peut-être c'était toujours comme ça dans l'autre époque, mais moi je vis dans mon époque.
Est-ce que vous considérez comme un écrivain russe?
Je me considère comme je suis, c'est-à-dire oui, dans certains sens peut-être, dans les certains livres, je suis les traditions russes. En particulier, quelques livres publiés chez l'édition Alban Michel, l'autoportrait d'une bandit, etc. Mais d'autres grandes peut-être tradition. C'est une tradition de littérature internationale, justement de littérature des émerdeurs, de Jean Genet, de Céline peut-être. C'est-à-dire, je ne suis pas l'élève de Jean Genet ou de Céline ou de Henry Miller, mais moi, je suis écrivain de la même, encore j'utilise les mots, branche de littérature.
Mais vous n'êtes pas lié à une langue?
Non, pas vraiment. Je ne suis pas écrivain de langage. Je suis écrivain des idées, oui, des idées, je crois. D'un regard sur le monde aussi, oui.
La mémoire d'Edouard Limonov s'efface progressivement de l'histoire de la littérature contemporaine, mais vous êtes taraudé par... son écriture, son histoire, son existence.
Mais je crois qu'il faudrait qu'on... parce que, et vous et moi, on sait qui c'est, mais il faut peut-être le rappeler un petit peu.
Oui,
aux gens
que,
qui
hélas,
les écoutent.
Hélas,
donc,
oui.
Limonov est un type qui a mené une vie très, très aventureuse, qui a commencé par être, en fait, délinquant juvénile dans sa ville natale de Kharkov, en Ukraine, qui a été ensuite une sorte de poète underground, très, très apprécié à Moscou sous Brejnev, qui a émigré, qui a vécu dans les années 70 à New York dans des conditions très, très difficiles, en faisant toutes sortes de métiers, enfin un peu à la... C'était une espèce de Jack London russe, d'une certaine façon, et qui est arrivé en France au début des années 80 avec un livre qui avait publié, je crois, Jean-Jacques Pauvert, qui s'appelait « Le poète russe préfère les grands nègres », qui était son premier livre publié, qui était un livre formidable, un livre autobiographique comme tous ses livres. Et c'est à cette époque que, pour ma part, je l'avais connu un peu à Paris. Il a vécu une dizaine d'années à Paris, comme on l'a entendu. Il avait d'ailleurs très bien appris le français. C'est un type qui a une capacité d'adaptation remarquable. Et au fond, pendant une dizaine d'années, c'est un écrivain de grand talent, et moi, d'autres gens qui le connaissaient mieux que moi, on l'aimait beaucoup, d'autant que je dirais que c'était une figure assez rafraîchissante, disons, à un moment où on avait beaucoup de dissidents soviétiques qui étaient des gens graves, avec des grandes barbes, tout ça, et on avait ce type qui avait un côté rockstar, qui était très, très marrant, très, très audacieux, non conformiste, tout ça. Donc, les choses se sont gâtées, si on peut dire, enfin, après l'effondrement du communisme, quand Limonov, qui était... dans tout le monde, au fond, quand Limonov, à la fin d'un dîner, ayant bu un coup de trop, vous chantait les louanges de Staline, on mettait ça sur le compte de son goût de la provocation. Ce dont on s'est aperçu, c'est d'abord Limonov s'est mis à beaucoup partir faire la guerre dans les Balkans. Ça en a été un peu refroidi quand on a vu dans un documentaire de la BBC Limonov a l'air apparemment tiré sur des hauteurs de Sarajevo sur la ville sous l'œil bienveillant de Radovan Karadzic. Ensuite, il est rentré dans son pays où il a créé un parti qui portait le nom engageant de Parti National Bolchevique. Bref, moi j'étais très... ensuite, il a ce parti qui était quelque chose d'absolument inclassable, enfin qui peut paraître comme un parti nostalgique du communisme, un parti fascisant, une espèce de truc très 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 bizarre. Et au fond, moi j'étais, j'avais un souvenir amical de Limonov, j'étais très enfin troublé et intrigué par la suite de sa trajectoire. Enfin, intrigué est un mot faible, enfin très à la fois choqué, et puis en me disant, mais qu'est-ce qui fait que ce type si talentueux, si libre, se retrouve là, enfin, à faire des choix qui, avec la meilleure volonté du monde, ne peuvent paraître que des choix les pires possibles, enfin, il faut bien dire. Et je suis allé... Il a été ensuite... Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a été mis en prison. Il a passé 2 ou 3 ans en prison sous un régime très dur. Enfin, alors que c'était un homme qui approchait la soixantaine à ce moment-là, sous l'inculpation de tentatives de coup d'État séparatiste au Kazakhstan. J'étais à sa sortie, peu après qu'il soit sorti de prison, enfin il y a quelques années, j'étais allé faire un long reportage sur lui pour le magazine 21 à Moscou. Donc je l'avais revu. J'ai envisagé, pour l'instant, j'ai mis laissé de côté, mais de faire un livre plus quelque chose de plus long qu'un reportage, enfin un livre sur son histoire, ce qui est dans histoire dont je pense qu'elle raconte. Au-delà de sa personnalité, qui est de toute manière intéressante et singulière, j'ai l'impression que ça raconte quelque chose, quoi, sur les 20 dernières années, sur ce qui s'est passé dans le monde après la chute du communisme, sur la Russie, sur le chaos de la Russie des années 90, sur la Russie aussi depuis 2000. Encore une fois, je crois que ça raconte quelque chose et je sais pas bien quoi. Ce qui est une raison de raconter une histoire.
Ben, vous venez peut-être de définir, Emmanuel Carrère, votre manière d'envisager l'écriture et votre possibilité pour nous de nous emparer de vos livres. C'est vrai que nous avons, nous lecteurs de votre œuvre, parce que je crois qu'on peut déjà parler d'une œuvre, une espèce d'empathie, de suspension du temps, ce qui se produit quand on ouvre un de vos livres. Vous venez parler de Limonov en disant qu'il est un ennemi de Poutine. Nous allons parler de l'adversaire, car voici encore un être qui n'est pas sur le chemin de la banalité et de l'accomplissement d'un destin normal, entre guillemets.
Sauf que lui, il aurait bien aimé. Enfin, à la différence de quelqu'un comme Limonov qui a toujours voulu être un personnage exceptionnel, tout ça. Je pense que le personnage dont vous parlez, Jean-Claude Roman, auquel j'avais consacré ce livre, L'Adversaire, je pense qu'il aurait certainement beaucoup aimé avoir la vie la plus normale et passe-partout possible, il me semble.
Ah, ben alors parlons-en.
Vous n'êtes pas d'accord?
C'est vraiment de multiples questions qui se posent à nous en tant que lecteurs quand on lit et quand on relit ce que j'ai fait pour notre entretien à l'adversaire. Donc il faut que vous resituiez.
Peut-être faut-il aussi rappeler, oui,
le contexte.
Oui, donc l'affaire Roman, ça a été un des faits divers les plus marquants de la décennie précédente. Ça s'était passé en 93. Un jour, un médecin travaillant à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, le docteur Jean-Claude Roman, tue toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, le chien. Et dans les jours il essaye de se suicider, il se rate.
Il essaye un peu.
Oui, il essaye un peu mollement, sans doute. Et dans les jours qui ont suivi, on essaye de s'expliquer ce geste inexplicable. Et en fait, on constate que, contrairement à ce qu'il disait, à ce que tout le monde croyait, il ne travaillait pas à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Il n'était pas médecin. Il avait arrêté ses études de médecine en deuxième année.
Il n'avait pas franchi le cap de cette fameuse première année si difficile.
Et en même temps, continuait à faire comme s'il faisait ses études de médecine, à faire ensuite comme s'il devenait médecin, comme si ensuite il devenait chercheur, comme s'il devenait un chercheur important, un homme ayant d'importantes responsabilités, des choses comme ça. Et ce mensonge, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, a tenu pendant une quinzaine d'années. Ça paraît stupéfiant parce que normalement, forcément, il y a des recoupements, les gens, on peut pas a priori
mentir. Que sa femme, ses enfants, son entourage amical,
en plus,
ses parents.
En plus, ce type vivait entouré de médecins, de gens exerçant des professions de ce genre, et tout le monde y a cru. Ce qui d'ailleurs, quand les quand les gens qui l'entouraient ont appris la vérité sur lui, ils ne sont pendant longtemps pas arrivés à y croire. Ils pensaient vraiment qu'il y avait une pièce du puzzle qui manquait, enfin qu'il y avait quelque chose que je ne sais pas, qu'il y avait une conspiration contre lui, ou que c'était autre chose, ou qu'il était espion, ou qu'il était de je sais quoi, mais pas rien. Or, pendant toutes ces années, il a été rien, en faisant croire qu'il était médecin.
Et il partait tous les matins, il prenait sa voiture.
Il
allait à la bibliothèque.
Il allait à la bibliothèque. Il allait traîner dans le grand immeuble de l'OMS à Genève. Il allait dans des librairies. Il restait éventuellement toute la journée sur des parkings au bord de l'autoroute, où il allait se promener dans les bois, dans le Jura. Enfin, et ça a été une vie comme ça. Et il y a quelque chose de tout à fait sidérant dans une histoire de ce genre, j'ai vraiment pas été le seul à être troublé et fasciné par cette histoire. Moi, j'avais suivi son procès qui a eu lieu en 95, et je me souviens, il y avait tous les chroniqueurs judiciaires de France, et tous, qui étaient, dont beaucoup pourtant étaient blanchis sous le harnais et avaient quand même connu beaucoup d'histoires, tous disaient que c'était une des histoires les plus stupéfiantes auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés dans leur carrière. Alors j'ai passé, quant à moi, vraiment plusieurs années, en réalité 7 ans même, à tourner autour de cette histoire, à me demander comment écrire dessus, à me demander ce qui me poussait à écrire dessus, non sans beaucoup de malaise et même de culpabilité, en me disant, enfin, vouloir écrire là-dessus, qu'est-ce que ça raconte sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être tellement fasciné par ça? Il y a quelque chose de si profondément... troublant et affreux dans cette histoire. Enfin, ça a été.
Je veux pas vous apitoyer sur mon sort, mais
oui, mais alors là, c'était vraiment une
massif.
Espèce de d'énormes paquets de problèmes d'identité. Enfin, c'était on fait difficilement plus lourd, quoi.
Vous avez souffert pendant cette lente maturation de ce texte, l'adversaire.
Oui. Oui, vraiment, vraiment.
Vous êtes identifié aussi à Roman, que vous avez été voir d'ailleurs.
Identifié, je ne sais pas, mais il y a, en tout cas,
jugez pas.
Non, j'ai essayé, je suis vraiment efforcé de ne pas le juger. J'ai la plus grande réprobation morale pour ce qu'il a fait, mais la question n'est pas là, disons. Et c'est même une chose qui est embarrassante quand on se lance dans un livre comme ça, c'est qu'au fond... on n'a aucun mandat pour le faire. Je veux dire, le juge d'instruction, la justice, les jurés, tout le monde, les experts psychiatres, tous ces gens-là tiennent un rôle. La société les mandate pour juger cet homme, et ils l'ont fait. Il a été jugé, il a été condamné, comme il était prévisible qu'il le soit, à perpétuité, comme il s'y attendait, comme il était normal. Maintenant qu'un type mandaté par personne ensuite décide de raconter son histoire, je n'ai pas cessé de me demander, mais au fond, de quel droit, à quel titre, et qu'est-ce qui m'autorise à le juger? Justement, là j'ai fait tout ce que j'ai pu, justement, pour ne pas le faire, et pour pas non plus, ce qui ne veut pas dire non plus le défendre, ce qui ne veut pas dire faire un livre d'avocat, ce que du reste il a très bien compris, qu'il n'a jamais attendu de moi. Mais c'est une position extraordinairement inconfortable. Et au fond, j'ai mis, si ce livre a eu une gestation si longue et si difficile,
c'est aussi... Et un accueil si positif.
Oui, mais avant ça, je pense que si ça a été si difficile, c'est que j'ai mis énormément de temps à trouver ce qui me semblait être une place tenable, quoi, face à cette histoire et à cet homme.
La place de l'écrivain.
Oui, mais aussi, je dirais, au fond, il y a une chose qui s'est passée pour moi en écrivant ce livre, qui d'ailleurs a ouvert quelque chose pour la suite, c'est que j'ai fini par me résoudre, alors que je ne l'avais pas du tout envisagé, non seulement au début, mais pendant des années en y travaillant, j'ai fini par envisager de l'écrire à la première personne. Quand je dis à la première personne, c'est pas en écrivant moi, Jean-Claude Roman, mais en écrivant moi, Emmanuel Carrère, et en essayant de dire ce que j'éprouvais devant ça et ce à quoi ça me renvoyait, tout ça. J'ai mis énormément de temps à en venir à ça. Pendant très longtemps, je l'avais complètement exclu. Et auparavant, j'avais jamais rien écrit à la première personne. J'avais écrit des livres qui étaient des romans, des livres de fiction. Et assez curieusement, j'ai essayé pendant des années d'écrire ce livre sous cette forme-là, sous une forme romanesque. Et puis ça marchait pas, j'y arrivais pas. J'avais toujours l'impression que ça sonnait faux. Et c'est étrangement à un moment où j'avais décidé de l'abandonner, de laisser tomber ce livre sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Et j'éprouvais évidemment un petit peu d'amertume de tout ce travail en vain, sans doute, mais aussi une espèce de soulagement en me disant, bon, bah, tant mieux, finalement, cette histoire est trop affreuse, c'est très bien, laissons tomber, c'est une bonne chose. Mais au fond, je me suis dit, maintenant que j'ai laissé tomber, ne serait-ce que pour moi, ça serait bien que je garde une trace de toutes ces années que j'écrive pour moi, une espèce de petit mémoire, de ce qu'ont été toutes ces années à tourner autour de cette histoire, à entrer en relation avec cet homme, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire à la première personne quelque chose dont je me figurais justement que ça n'était pas un livre. Et c'est en me disant que je n'écrivais plus de livres qu'en fait, il est devenu possible de l'écrire.
C'est à partir de cette histoire de Jean-Claude Roman que vous nous livrez en fait un récit universel sur ce que nous sommes nous, tous, chacun. Car si ce livre s'intitule L'adversaire, c'est parce que à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un adversaire. Et cet adversaire, il peut rester invisible si nous tenons notre vie. Et puis, il peut se dévoiler ou exploser si nous nous mentons trop. Et c'est peut-être pour cela que ce livre nous capture.
Je crois que c'est vrai. La raison qui fait que cette histoire a tellement fasciné, et pas seulement moi, il y a eu deux films autour de cette histoire, d'autres écrits, des choses comme ça, et vous voyez même, et en dehors de l'existence de mon livre, même 20 ans après, on s'en souvient encore, enfin ça fait partie de ces faits divers extrêmement marquants. Et je crois que ça tient à ça, je crois que ça tient à ce que il y a évidemment quelque chose d'absolument paroxystique dedans qui fait que ça ne correspond pas à l'expérience commune, bien entendu. Mais en même temps, c'est comme si ça amplifiait quelque chose que peu ou prou, quelque chose dont peu ou prou tout le monde fait l'expérience malgré tout, ce sentiment du décalage entre l'image qu'on s'efforce de donner à autrui, l'image sociale qu'on s'efforce de donner, et puis le malheureux petit bonhomme effrayé qu'on sait être, qu'on est le seul à savoir être dans la faveur de l'insomnie, de la dépression, de la maladie, ou quand on est tout seul, quoi. Et je pense que ce décalage-là, on le vit tous, ce sentiment de n'être pas celui dont on essaye d'accréditer la figure, tout ça. Je crois que c'est universel. Le fait d'en arriver à mentir pendant 18 ans et ensuite de tuer tout le monde, c'est beaucoup moins fréquent. Mais ce dans quoi l'espèce d'angoisse profonde dans quoi cette conduite extravagante s'enracine, je crois que ça, on l'a tous éprouvé et que c'est ce qui fait qu'une telle histoire nous touche et fait qu'on se dit que oui, il y a quelque chose qu'on connaît tous qui se joue là-dedans. C'est pas comme des histoires de serial killer ou de choses comme ça. Si vous voulez, face à un serial killer, tout ce qu'on se dit, c'est mon Dieu, tout ce que j'espère, c'est ne pas en rencontrer ni que quiconque que je connais n'en rencontre. Voilà, c'est tout. Peut-être que je connais pas assez mes propres abîmes, mais devant un type comme, je sais pas, Fourniret ou des gens comme ça, franchement, je me dis pas, rien en moi ne s'identifie. Alors que dans une histoire comme roman, oui, il y a quelque chose, il y a une identification qui est possible et une espèce de. Je me souviens que quelqu'un m'avait écrit une lettre avec une formule qui m'avait frappé à propos de ce livre, en me disant qu'au fond, chacun d'entre nous a une espèce de, à l'intérieur de soi, une espèce de fenêtre qui donne sur l'enfer. Et que, écrire ce livre, c'était comme vraiment venir se tenir devant, devant cette fenêtre et même amener le lecteur par la main en disant on va s'installer devant cette fenêtre et puis regarder le temps qu'il faut. Quoi. Et bon, c'est pas une entreprise de tout repos, ça c'est certain.
Vous n'aimez pas les entreprises de grand repos, Emmanuel Carrère. Et après ce livre, je crois que quelque chose s'est décelé. Comme on dit, déceler une tombe. Nous avons évoqué tout à l'heure votre œuvre d'écrivain. Vous êtes aussi cinéaste. Vous avez adapté le film tiré de votre livre « La moustache ». Mais vous n'avez pas écrit « Retour à Koltenich », qui est un film à lui tout seul. Une sorte d'errance, de déambulation. Là aussi, on a envie de parler d'enveloppement quand on voit ce film, parce que nous, spectateurs, nous sommes enveloppés dans ce bain à la fois d'ivresse, de quête d'identité, de sensorialité. Nous allons en écouter un extrait.
Tous les événements qui se passaient, j'ai vraiment trouvé, pour moi personnellement, que c'était un gars qui liait à mon avis, c'était Anya qui liait tous les déroulements.
On l'a rencontré à la Troïka.
Mais il parlait déjà français.
On a filmé beaucoup de choses à la Troïka. Et ensuite, tu sais, elle nous a donné un rendez-vous le lendemain matin.
Ouais.
Et elle n'est pas venue. Et le soir, alors qu'on était en train de préparer nos bagages pour rentrer à Moscou le soir, ce soir-là, Anya est venue. Elle est venue avec sa guitare pour nous chanter plusieurs chansons, comme un truc d'adieu. Comme un truc d'adieu, alors qu'elle ne pensait pas qu'on reviendrait jamais.
Non, au sentiment, c'était pas un truc d'adieu. C'était vraiment pour elle, si je comprends bien, pour elle, c'était le revoir.
Un au revoir.
À la prochaine. C'était pas adieu, adieu, adieu.
Vraiment. Et à ce moment-là, on pensait pas du tout revenir.
Mais pour elle, c'était. C'était vraiment.
À l'écoute de la bande-son, les auditeurs de France Culture comprendront aisément qu'effectivement, il s'agit à la fois d'un voyage, d'une quête initiatique, d'une errance, d'illuminations diverses aussi. Ce film, là aussi, nous captive, nous capture et va, on a reconnu à un moment votre voix, on a compris que le début du film se déroulait dans un train, et qu'ensuite vous alliez arriver nulle part. Koltenich, c'est nulle part. Mais il se passe beaucoup de choses.
Alors, il faut peut-être que je débrouille un peu les chevaux de cette... En fait, ce qui s'est passé, c'est que, après avoir écrit l'adversaire dont on parlait, j'étais complètement vidé. J'avais eu envie de refaire des reportages, ce que j'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, et toujours avec plaisir et intérêt. Et là, on m'en avait proposé un sur une histoire très étrange et très émouvante, qui était celle d'un soldat hongrois qu'on avait retrouvé dans un hôpital psychiatrique dans une toute petite ville en Russie. Et le type, on l'a retrouvé en 2000, il était là-bas depuis 44. Il avait été prisonnier de guerre, et puis il avait fait quelque chose comme une sorte de bouffée délirante, un truc comme ça. Moyennant quoi, on l'avait mis à l'hôpital psychiatrique, et puis il n'en était plus reparti. On aurait pu le renvoyer en Hongrie, tout ça, mais en fait, il est resté pendant 55 ans, réduit à l'état de bûche, il faut bien dire. Et puis un jour, on le retrouve, et c'était vraiment comme si... on a l'impression qu'il connaissait même plus son nom. Enfin, c'était une espèce de... Comment dire, de personnage à la Kaspar Hauser, vous voyez, comme ça, mais un Kaspar Hauser de 75 ans. Et j'étais donc allé faire un reportage pour le magazine Envoyé Spécial, c'est un reportage de télévision avec une équipe de télévision, sur cette histoire, à la fois en Hongrie où il avait été rapatrié, et puis dans cette petite ville où il avait donc passé ses 55 ans dans une solitude abyssale véritablement, puisqu'en plus il n'avait jamais appris à parler le russe, il avait continué à parler le hongrois que personne ne comprenait autour de lui. Et donc, j'étais, même si ce temps de tournage avait été court, je m'étais retrouvé dans cette petite ville russe, dans ce pays qu'au fond je ne connaissais pas, entouré de cette langue qui me revenait par bouffée et que j'étais incroyablement malheureux de ne pas comprendre et de ne pas parler. Et j'ai eu le désir à ce moment-là de revenir, au fond, à ce moment-là, pourquoi pas dans cette petite ville, que n'importe quelle autre ferait l'affaire, mais vous voyez, ces petites villes de la Russie profonde qui se ressemblent toutes, qui sont très désespérantes, où il y a vraiment une vie très engluée, sans perspective aucune, où on a l'impression que ça, au fond, que les descriptions que pouvait faire Tchekhov de la province russe sont toujours valables. Avec des trains qui passent et que les gens ne prennent pas.
Il n'y a plus de cerisés, hein.
Non, non.
Hélas.
Mais et j'étais retourné dans cette ville avec l'idée de faire un film documentaire, mais qui n'avait pas de sujet. L'idée, c'était au fond de s'installer là avec une équipe pendant un mois et demi et de filmer ce qui se passerait s'il se passait quelque chose, et en prenant son parti du fait qu'il pouvait ne rien se passer. Et en fait, bon, le malheur, c'est qu'il s'est passé des choses, c'est-à-dire qu'il y avait une jeune femme qu'on a un peu entendue là tout à l'heure qui chantait, qu'on avait rencontrée dès notre premier séjour, qui était une fille singulière, attachante, qui parlait français, qui chantait extrêmement bien, qui était un peu...
Votre guide un peu.
Oui, qui nous a servi de guide, d'interprète, qui était qui racontait un peu des cracks, qui en même temps était très sympathique, très touchante, qui je crois nous aimait beaucoup, qui est pour qui c'est des Français s'installant en ville, c'était intéressant, c'était émouvant. Et cette fille a fini par être assassinée, elle a été découpée à la hache par un fou. Et au fond, le film est devenu ce qui était évidemment pas prévu. Le film s'est mis beaucoup à tourner autour d'elle, de sa famille. Au fond, ça raconte en partie le deuil de cette jeune femme, quoi, et de son enfant, car son enfant a été tué avec elle.
Nous allons écouter le premier journal d'information qui a été diffusé après cette catastrophe mondiale qui s'appelait le tsunami, le premier reportage radio.
France Inter.
Un séisme au plus haut sur l'échelle de Richter, 8,5 sur 9 selon l'Institut géologique américain, doublé d'un énorme raz-de-marée. C'est tout le golfe du Bengale dans l'océan Indien qui est frappé ce matin par cette catastrophe naturelle dont l'épicentre se situerait à 40 km sous l'océan au large de l'île indonésienne de Sumatra. La province d'Aceh est particulièrement touchée, des dizaines d'immeubles se sont effondrés, des vagues sismiques de plusieurs mètres ont ensuite frappé les côtes. Dans cette province, au moins 9 personnes sont mortes. Mais l'on peut redouter un bilan beaucoup plus lourd. Je vous le disais, tous les pays qui bordent le golfe sont touchés. Le Sri Lanka le serait tout particulièrement. On aurait déjà compté 150 morts. Plus au nord, en Inde, le raz-de-marée aurait fait une vingtaine de morts. Il a ensuite aussi submergé le Bangladesh, la Thaïlande, d'où vous nous appelez Arnaud Dubus.
Sur l'île touristique de Phuket, le raz-de-marée a emporté la route sur la plage la plus fréquentée de l'île, celle de Patong. Le niveau des eaux reste élevé et de nombreux touristes se sont réfugiés sur les toits de leur hôtel. Les bungalows à même la plage ont été emportés. On signale une centaine de blessés et de disparus. Beaucoup de personnes se sont réfugiées à la mairie de la ville. La situation reste chaotique et beaucoup de bâtiments ont été fissurés par le choc. Sur l'île proche de Koh Phi Phi, des vagues d'une hauteur de 7 mètres ont submergé la partie orientale de l'île une dizaine de minutes après le tremblement de terre. Ce côté de l'île, bondé de touristes à cette période, se trouve toujours sous les eaux. Les touristes et les villageois se sont regroupés sur les hauteurs et sur les toits des quelques bâtiments. Il y a de nombreuses disparitions, mais le bilan définitif des victimes ne pourrait être connu que lorsque les eaux se sont retirées. Dans la grande métropole du Sud, Hatyai, le choc a aussi été ressenti. Les façades des plus hauts bâtiments ont été fissurées et les vitres ont volé en éclats. Ces raz-de-marée interviennent au plus haut de la saison touristique, alors que la plupart des hôtels de ces deux îles sont remplis de touristes asiatiques et occidentaux. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI pour France Inter.
C'était le 26 décembre 2004. C'est ainsi que commence votre dernier ouvrage, Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. Vous étiez là-bas, vous avez vécu ces événements et les premières pages de ce livre s'ouvrent de nouveau sur le drame, la mort, l'apprentissage du deuil et la possibilité de pouvoir venir en aide, trouver des mots, avoir un comportement corporel, gestuel, psychique pour pouvoir faire en sorte que les autres qui souffrent atrocement autour de vous puissent tout simplement respirer la seconde d'après.
Oui. J'étais à ce moment-là au Sri Lanka en vacances avec ma compagne et nos enfants l'un et l'autre. Et en fait, nous, il nous est absolument rien arrivé, tout simplement pour la raison qu'on était dans un hôtel qui était sur une hauteur à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, en sorte que nous, on n'a même pas perdu une paire de chaussettes, quoi. On s'est trouvé, voilà, au milieu de cette catastrophe. Cet hôtel, en plus, s'est vite transformé en une espèce de radeau de la Méduse, puisque tous les gens, enfin, essentiellement les touristes, les étrangers que sinistrés qui avaient tout perdu, les leurs, affluaient là. C'était un endroit qui est devenu une espèce de refuge. Et donc, on a passé une semaine là à faire ce qu'on pouvait, à être totalement c'est très... à la fois, on essaye de faire, on est terriblement désemparé par le malheur d'autrui, par le fait aussi d'être l'espèce de scandale qu'il y a à être soit totalement épargné, et puis au bout d'un moment on passe par-dessus. Je veux dire, on va pas s'arrêter à penser ça, on essaye de, comme on peut, de faire quelque chose, de soutenir, d'assister. Il se trouve qu'on a été pendant ces séjours extrêmement proches d'un jeune couple français avec qui on s'était un tout petit peu lié quelques jours plus tôt, qui eux avaient perdu leur petite fille de 4 ans. Et bon, on a été avec eux, on a couru les morgues à sa recherche, tout ça. Enfin, c'est une des choses les plus, enfin sans doute la chose la plus violente et terrible à quoi j'ai été confronté dans ma vie. Et je l'ai raconté dans ce livre beaucoup plus tard d'ailleurs. Sur le moment, dans les mois qui ont suivi, ça me paraissait je m'étais même pas posé la question, ça me paraissait inconcevable d'écrire là-dessus. Et puis c'est venu plus tard, oui, parce qu'en fait en écrivant d'autres choses qui sont le sujet de ce livre, d'autres vies que la mienne, puisqu'en fait ça tourne aussi autour d'un autre deuil plus, je veux dire, plus de
proche de vous,
collective. Voilà, c'était ma belle-sœur, la sœur de ma compagne, qui était une jeune femme de 33 ans, qui est morte d'un cancer en laissant son mari et 3 petites filles. Et il s'est trouvé que, pour diverses raisons, en fait parce que je me suis lié d'amitié avec un collègue à elle qui était juge comme elle, et qui avait entrepris de nous parler de ce qu'il faisait comme juge, m'était mis à écrire sur elle, sur sa vie, sur sa maladie, sur sa mort, sur cette belle-sœur qu'à la vérité j'avais très peu connue, j'avais dû voir 2 fois dans ma vie, 3 fois dans ma vie, dont une sur son lit de mort en réalité.
Oui, mais nous, quand on lit d'autres vies que la mienne, on a l'impression de la connaître.
J'en parle à travers ceux qui l'ont connue véritablement. C'est avec eux que
comment elle était avec ses enfants, comment elle habitait sa maison, comment elle aimait son mari, comment elle exerçait la justice, comment elle était non seulement digne de respect, mais extraordinairement courageuse par rapport au cas auquel elle était affrontée, puisqu'elle s'occupait de personnes qui étaient dans un état de surendettement. Et je ne sais pas comment vous faites, Emmanuel Carrère, pour nous embarquer, nous lecteurs, dans cette espèce. Vous avez tout à l'heure parlé de grand radeau de la Méduse, mais c'est vrai que vos livres souvent nous entraînent dans ces radeaux de solidarité, dans cette espèce d'intimité d'être que nous ne connaissons pas, que vous nous invitez à rencontrer véritablement. C'est très rare quand même que l'écriture puisse nous permettre de rencontrer des êtres. Et on vit avec les gens que vous nous restituez grâce à l'écriture.
De fait, c'est un livre qui repose sur une rencontre, à vrai dire, qui n'est pas la rencontre avec cette jeune femme, ma belle-sœur, à l'origine. Mais
oui, mais c'est l'écriture qui l'a ressuscité.
Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de sa mort, toute sa... la famille a été plus convoquée comme ça par un homme qu'on ne connaissait pas, qui était un collègue à elle, un juge qui s'appelle Étienne Rigal. Et Étienne Rigal, qui a donc convoqué chez lui cette dizaine de personnes dont, voilà, qui venaient de perdre qui leur fille, leur sœur. Moi, j'étais juste une pièce rapportée. Je suivais ma compagne, là. Au fond, pendant 2 heures, il a parlé d'elle. Il a parlé de leur amitié. Il a parlé de la façon dont ils rendaient la justice ensemble. Et j'ai été subjugué par ce qu'a dit ce type pendant 2 heures, par la force de ce qu'il disait, la liberté et l'audace avec lesquelles il parlait. En fait, j'ai été... Et je me suis dit, en sortant de là, au fond, l'émotion que moi j'ai ressentie pendant 2 heures en l'écoutant, j'aimerais la faire passer, j'aimerais écrire quelque chose qui restitue ça. Et au fond, j'ai l'impression, même si ça s'est élargi, tout ça, ça s'est notamment élargi à l'histoire du tsunami que vous évoquiez tout à l'heure. Mais j'ai l'impression d'avoir suivi ce programme-là, finalement. C'est ça, c'est à l'origine la rencontre avec ce juge, Étienne, qui est devenu un ami très cher, et qui aussi, d'ailleurs, m'a un peu provoqué, puisque quand même, à l'issue de cette rencontre, alors qu'il n'avait pas du tout manifesté qu'il me connaissait comme écrivain, il m'a quand même dit, alors que, vous voyez, on se serrait tous la main pour se dire au revoir, et il m'a dit, réfléchissez à ça, c'est peut-être pour vous. Et de fait, je suis rentré chez moi, je me suis dit, oui, je vais le faire.
Merci Emmanuel Carrère, merci à Clotilde Thomas, Brigitte Bouvier, Élodie Royer, Didier Lagarde.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 novembre 2011. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.